Donc nous allons méditer la sagesse de la croix. Et je pense que cette rencontre que nous allons faire dans cette heure est celle qui nous touchera certainement le plus. Et il me semble qu'on peut dire que c'est maintenant, nous allons aborder dans notre retraite le sommet de notre réflexion. La croix, mystère d'amour. Alors nous verrons successivement le mystère d'amour, sa place, le salut en Christ, le croix du disciple, la sagesse de la croix, et nous aurons quelques réflexions sur saint François. La croix comme mystère d'amour. À l'origine, en Genèse 2, Dieu a créé Adam et Ève dans un jardin magnifique. Et ils y vivent comme des enfants innocents du mal. Ils y font leurs premiers pas dans la présence de leur Créateur qui vient les visiter le soir et s'entretenir avec eux. Ce bonheur ne connaît qu'une seule limite, ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui fait partie du domaine du Jardin d'Éden. Ils n'ont aucune difficulté à obéir à ce commandement, puisqu'ils sont comme des enfants innocents qui vivent un bonheur sans problème. La suggestion de la désobéissance ne peut venir que de l'extérieur. Et c'est un Satan qui va venir corrompre leur relation à Dieu. Il se présente comme un tentateur qui est lui-même en rupture avec Dieu et qui vient pervertir cette nouvelle création que Dieu vient de se donner. La suggestion habile s'avère efficace, et l'homme tombe dans la rupture d'avec Dieu. La sentence divine ne fait que reconnaître le nouvel état de choses. Et l'homme se trouve exilé du jardin de l'Éden, c'est-à-dire qu'il a perdu l'innocence première, puisqu'il est devenu pécheur. Et Dieu lui retire les biens qui faisaient partie de son état d'innocence, c'est-à-dire la possibilité de la vie éternelle, la connaissance infuse de la gloire de Dieu, l'harmonie du couple avec son environnement. Et saint Paul dira que la création elle-même a reçu le choc puisqu'elle se trouve assujettie à l'homme. Pourquoi l'homme n'a-t-il pas résisté à la tentation? Est-ce à la cause de la faiblesse de son être, de son état encore imparfait? Est-ce qu'il lui aurait fallu un temps de maturité pour arriver à la vie adulte? Est-ce une épreuve qu'il devait subir, comme celle que vivra Abraham? Ces questions rejaillissent sur Dieu lui-même. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme dans un état d'imperfection? L'homme aurait pu être créé parfait. Eh bien, la réponse que nous avons concerne le don de la liberté, par lequel Dieu a donné à l'homme de pouvoir participer à sa propre perfection. Et ce don exige que le sujet apprenne à assumer sa propre liberté. C'est effectivement ce qui se passe dans l'éducation de l'enfant. Pour devenir adulte, il lui faut apprendre à gérer sa liberté, et ses parents sont les éducateurs de cet apprentissage. La famille est le lieu premier de cette éducation. À l'origine, c'est Dieu qui est le seul éducateur d'Adam et d'Ève. Ainsi, on ne peut pas reprocher à Dieu d'avoir créé l'homme avec faiblesse. Et s'il avait été créé parfait, il n'aurait eu aucune participation personnelle à sa réalisation et donc à son bonheur. Quelle est la place de la croix dans l'origine ? Sans la chute, est-ce que la croix aurait existé ? L'éducation aurait eu lieu dans la présence aimante de Dieu et l'homme aurait grandi comme Jésus en taille et en sagesse. Mais avec la chute, bien des scénarios de salut auraient été possibles à Dieu, et même si nous les ignorons. En fait, Dieu a choisi le salut par la croix de l'incarnation du Fils éternel, Jésus. La croix se présente donc comme un choix volontaire de Dieu. Saint Augustin écrit : un autre mode de salut aurait été possible à Dieu, dont le pouvoir soumet tout. Mais il n'y avait certainement pas de mode plus convenable que la croix à la guérison de notre misère. Ce n'est pas le péché qui a obligé Dieu à changer ses plans de création de l'homme. C'est le vouloir personnel de Dieu qui a motivé l'incarnation rédemptrice. L'incarnation est rédemptrice dès son origine. L'icône de Noël situe le Christ dans la caverne de la mort. Il entre dans l'abaissement de sa gloire qui ne perd pas, mais qui l'assujettit à sa nature humaine. La croix est son abaissement volontaire pour le salut du monde. La théologie dite de la kénose, c'est-à-dire du dépouillement total, a même plus poussé plus loin encore cet abaissement pour le salut du monde, en le considérant comme un mystère d'amour au sein même de la Sainte Trinité. Et nous lisons en Pierre cette parole mystérieuse : l'agneau immolé avant le commencement du monde. Toute la vie humaine du Fils éternel est une obéissance au Père qu'il a envoyé pour la mission du salut du monde. Et en tant que Fils, il a adhéré volontairement, par amour, à la volonté de son Père. On lit en effet au livre des Hébreux, chapitre 10e, verset 5, en entrant dans le monde, le Christ dit : tu n'as voulu ni sacrifice, ni oblation, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors voici, je viens. Car c'est de moi qu'il est écrit dans le rouleau du livre : pour faire, ô Dieu, ta volonté. Nous connaissons le combat humain que Jésus a assumé au moment de son agonie, où il a plié sa volonté humaine à celle du Père. La nature de la croix, c'est la réhabilitation de l'obéissance. L'obéissance comme un chemin nouveau, nécessaire, pour retrouver le Père. La croix rend donc compte de la situation de l'homme après la chute. elle manifeste au monde actuel que c'est un monde soumis aux forces du mal qui a triomphé à l'origine. Jésus est venu endosser tous les aspects de cette condition humaine déchue. Il l'a prise telle qu'elle est marquée par le péché d'origine. Il l'a pris pour la rétablir dans la vérité. Il s'est fait obéissant pour cela jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. Le salut en Christ. Le premier moment du salut, c'est donc l'incarnation du Christ qui prend sur lui toute la condition humaine, humiliée par le péché d'origine. Et ayant tout pris, il s'est fait lui-même péché, dit saint Paul. Et il se présente devant le Père comme l'ecce homo de la passion. L'homme qui récapitule en lui toute la condition pécheresse depuis la chute. La théologie de la satisfaction nous dit que pour le Père, la mesure de déréliction acceptée volontairement par le Fils est comble. Le Christ a parfaitement accompli la volonté du Père. Il s'est recouvert de tous nos péchés qui l'ont conduit à sa passion et à sa mort en croix. Et c'est ainsi que le Père a reçu son Fils dans cet état de laideur absolue qui est la conséquence de son obéissance pour nous délivrer de la lèpre du péché. La face première extérieure est le péché du monde et la face intérieure, c'est l'amour d'obéissance au Père, qui du même coup est l'amour de ses frères. Cet amour du Fils est total, absolu, au-delà de toute mesure. Quand il réalise la volonté du Père, et c'est ainsi que le Père fait de lui le premier-né de la rédemption du monde. Le Christ a dû souffrir pour nous une passion extrêmement douloureuse. Saint Pierre écrit « Sachez que ce n'est par rien de corruptible, argent ou or, que vous avez été affranchis de la vaine conduite héritée de vos pères, mais par un sang précieux, comme d'un agneau sans tache, le Christ, 1 Pierre 1, 18-19. En recevant son Fils éternel, couvert, empli du péché du monde, le Père reçoit donc l'amour de son Fils. Et lui-même répond à cet amour en apportant le pardon. C'est l'amour du Fils envers le Père et envers ses frères qui est la cause du pardon du Père. La croix devient ainsi un mystère d'amour du Fils. Qui souffre la croix et le Père pardonne. La croix porte en elle ses deux faces, l'amour du Fils et le pardon du Père. qui est l'acte suprême de son amour. Et c'est ainsi que le Père a tout pardonné en son Fils. La croix du disciple. Matthieu écrit en 16:24 « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Et Edith Stein écrit « Le Sauveur n'est pas seul sur le chemin de la croix. Il n'y a pas autour de lui que des contradicteurs qui le harcèlent. Il y a aussi des personnes qui se tiennent à ses côtés, dont Simon de Cyrène, comme archétype de ceux qui acceptent une souffrance imposée et qui font l'expérience en la portant de la bénédiction qu'elle porte en elle-même. Porter sa croix est constitutif à notre condition de baptiser. Nous avons, dès l'origine de notre existence, vocation à la croix. Tous sont appelés. Mais au final, peu comprennent cette vocation, à l'abord rebutant. Tous ne comprennent pas l'appel, tous ne le suivent pas. Saint Jean-Paul II écrit « Le Christ n'a pas expliqué abstraitement les raisons de la souffrance, mais il a dit avant tout « Suis-moi ». Viens avec ta propre souffrance à cette œuvre de salut du monde qui s'accomplit par ma propre souffrance, par ma propre croix. Au fur et à mesure que l'on prend la croix du Christ, en nous unissant spirituellement à lui-même, le sens salvifique de la souffrance se manifeste. Si tous les disciples sont appelés à porter leur croix dans le Christ, tous ne sont pas appelés au même degré de configuration au crucifié glorifié. Certaines âmes répondent à un appel particulier de la porte du Christ pour être des victimes d'amour. Saint Padre Pio écrit « Mon enfant, dit Jésus, j'ai besoin de victimes pour apaiser la juste et divine colère du Père. » Cette parole victime pourrait être mal comprise. Elle signifie que la personne ne se contente pas de supporter patiemment les épreuves de la vie, mais qu'elle s'offre volontairement, comme saint Paul écrit. Quant à moi, je suis déjà offert en libation. Et en Romains 12, quand il écrit « Je vous exhorte à offrir vos personnes en hostie sainte, vivante, sainte, agréable à Dieu. » Nous savons que la croix nous met sur un chemin d'appauvrissement. C'est un chemin exigeant de consentir à être petit et même à chercher de l'être encore plus. Sainte Thérèse de Lisieux écrit « Comprenez que pour aimer Jésus, être sa victime d'amour, plus on est faible, sans désir ni vertu, plus alors on est propre aux opérations de cet amour, consumant et transformant. Le seul désir d'être victime suffit, mais il faut consentir à toujours rester pauvre, sans force, et voilà le difficile. Car en fait, le véritable pauvre d'esprit, où le trouverons-nous ? Notre vocation chrétienne est de passer vers la croix salvifique. Saint Paul écrit en Galates 5, 24. Ceux qui appartiennent au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Mais passer de la sagesse humaine à la sagesse de la croix est une œuvre qui nous dépasse. Ce ne peut être qu'une œuvre du Saint-Esprit, car ce mystère de la rédemption et de la divinisation de nos êtres dépasse nos capacités humaines. La croix peut apporter des conditions favorables à ce passage, car souvent une épreuve nous contraint à une douloureuse impuissance. Elle nous fait perdre nos sécurités et nous conduit ainsi dans la profondeur de notre cœur pour nous faire comprendre le véritable sens de notre existence de pauvre entre les mains du Seigneur. Et c'est ainsi qu'elle nous fait épouser l'abaissement du Christ et qu'en dernier lieu, elle nous révèle qu'elle est une œuvre du Père qui veut nous agréger à la vie de son Fils. Ce passage est le passage de la sagesse humaine qui ne cherche que son bien dans ce monde et ne le trouve pas, à la sagesse divine qui, tout en étant crucifiante, apporte une nouvelle façon de voir les choses, un renouveau du sens de la vie et en dernier lieu, une nouvelle joie d'exister autrement. Elle fait entrer plus réellement dans l'amour du Christ pour en ressentir sa paix. Elle est vraiment une nouvelle sagesse. Une sagesse que la vie dans le monde cachait, ne permettait pas de trouver, du fait de toutes les préoccupations orientées vers les choses matérielles. Comment ce passage peut-il se faire de la sagesse humaine à la sagesse divine ? Eh bien, il peut avoir lieu après une grande épreuve qui, en premier lieu, laisse déconcerté, sans vie, sans comprendre le pourquoi, et même sans force pour en sortir. Alors, l'âme est malade. Elle ne s'intéresse plus à rien. Elle ne trouve aucun secours dans ce qui faisait sa vie. Elle perd le sens même de la prière, qui devient une charge trop lourde. Elle erre sans trouver de repos. Elle ne cesse d'entrer, de tourner dans sa douleur. D'une certaine façon, elle l'entretient même, tout l'accable. Et elle est indifférente au secours bienveillant des autres. Elle vit un état mortuaire, duquel elle ne sait pas comment s'en sortir. En fait, dans cette épreuve, il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse la sauver de cet état. Comment le Saint-Esprit réagit-il alors? Eh bien, il semble que dans un premier temps, il laisse la personne entrer dans sa dépression, qui va l'ouvrir à une profondeur de son âme qu'elle n'aurait pas connue sans cette épreuve. Et c'est là qu'est le mystère de la croix, le mystère de la souffrance, qui est un chemin que le Christ a pris volontairement et qui est pour tous le chemin qui est offert, qu'il faut accepter comme une sagesse de renaissance. Cette sagesse, bien sûr, est incompréhensible en dehors de la vision chrétienne de la foi. Comment le Saint-Esprit fait-il passer dans un deuxième temps vers la renaissance? Eh bien, il y a un mystère là, qui est peut-être aidé par la prière de l'entourage. L'action du Saint-Esprit introduit lentement dans l'âme de la personne affligée un certain souffle, comme une brise légère, qui apporte petit à petit une douceur que la personne ressent. Ce souffle s'épand petit à petit dans toute l'âme, et petit à petit son bienfait ressenti dans l'être de la personne. Et c'est alors qu'elle prend conscience d'un nouvel état en elle, comme si son âme se guérissait, et petit à petit, elle sort de son enfer. Nous avons là des témoignages de nombreuses personnes qui ont vécu, reçu une difficile épreuve, comme cette femme qui avait perdu sa fille avec laquelle elle était profondément unie, qui a perdu tout le sens de son existence, qui refusait même qu'on la console. Et puis, il a fallu beaucoup de temps avant que progressivement ce souffle, qu'est l'action de l'esprit, pénètre dans son âme. Alors, elle a pris conscience qu'il fallait s'intéresser à de petites choses, remercier simplement pour la lumière, remercier pour ce qu'elle voyait autour d'elle. Et elle a pris cet effort progressivement de sortir ainsi de son enfer. Cette œuvre appartient au Saint-Esprit et exige aussi le consentement de la personne. Il faut qu'elle-même accomplisse aussi un chemin de libération. C'est la prière qui accomplit cette personne, c'est la prière qui accompagne cette personne qui lui permet de faire ce chemin. Comme la personne en dépression ne peut prier, c'est la prière des autres qui agit. Et en premier lieu, c'est notre prière de l'Église qui est faite de toutes nos intercessions. Quand nous prions, nous ne savons pas comment le Saint-Esprit régit la masse de nos prières, mais nous le laissons agir comme il l'entend. Il nous faut une foi totale dans le Saint-Esprit consolateur, dont l'action est toujours vivifiante de vie. Le Seigneur nous a donné son Esprit, le Saint-Esprit, en nous quittant pour qu'il soit toujours avec nous. Et nous devons comprendre qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans lui. Il est le mystère du don de la foi, la nouvelle sagesse du salut par la croix. Il est le don par excellence qui fait naître les dons divers de la vie spirituelle. C'est le Saint-Esprit qui vient diviniser et c'est par lui que la personne entre dans la nouvelle étape de sagesse. Les mystiques ont décrit ces étapes de la sagesse qui est la grâce de la divinisation de l'être. Saint Jean de la Croix nous enseigne ce travail du Saint-Esprit qui agit en premier lieu en purifiant les sens. L'âme en prend à se connaître et à connaître Dieu, à se corriger, à chercher la présence habituelle de Dieu dans son âme. En premier temps, la purification est passive. Elle atteint toute la zone périphérique de notre être sensible. Alors, l'âme ressent un dégoût croissant des choses sensibles qu'elle appréciait jusqu'alors. Elle connaît des sécheresses dans la prière et même une certaine incapacité à prier, ce qui la bouleverse. Elle souffre beaucoup de penser que c'est de sa faute, que Dieu l'a délaissée. Et puis cette purification atteint encore plus profondément l'esprit. Cette purification s'accompagne de vives souffrances de l'âme. Quelle impression de perdre Dieu lui-même. Sainte Thérèse nous écrit « Oui, je veux que Dieu s'empare de mes facultés, de telle sorte que je ne fasse plus d'actions humaines et personnelles, mais des actions toutes divines, inspirées et dirigées par l'Esprit d'amour. Car le but de la purification n'est pas la souffrance pour la souffrance, c'est de créer une nouvelle sagesse d'union à Dieu. » Sainte Thérèse d'Avila écrit « La souveraine perfection ne consiste pas dans les joies intérieures, ni dans les grandes extases, ni dans les visions, ni dans l'esprit de prophétie. Elle consiste à rendre notre volonté tellement conforme à celle de Dieu que nous embrassions de tout notre cœur ce que nous croyons qu'il veut, que nous acceptions avec la même allégresse ce qui est amer et ce qui est doux, dès que nous comprenons que Sa Majesté le veut ainsi. » On peut dire que c'est l'application de la parole de Jésus. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, 21. Edith Stein écrit la même chose. la croix ne constitue pas un but, mais elle emporte nos âmes vers les hauteurs et nous les fait voir. Alors les flots de la lumière divine jaillissent au dehors et enveloppent tous ceux qui montent à la suite du crucifié. Et saint Jean écrit : Celui qui croit en moi, dit Jésus, fera lui aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes. Marthe Robin écrit : Je crois que nul ne sait vraiment ce qu'est la paix, ce qu'est la joie, tant qu'il n'est pas passé par le creuset de la souffrance. Nul ne sait quelle ressource, quelle surmaine allégresse donne le repos dans la volonté de Dieu, même crucifiante. Ce n'est pas encore la béatitude, mais c'est déjà quelque chose d'infiniment meilleur que tout ce que l'on rencontre ici-bas. C'est la félicité de l'amour. Terminons cette approche de la sagesse par la croix avec des paroles de la Vierge Marie adressées aux mamans à Amsterdam 1950. Je m'adresse aux femmes de ce monde. Savez-vous ce que veut dire être femme? Cela signifie faire des sacrifices. Défaites-vous de tout votre égoïsme, de toute votre vanité, et essayez d'amener au centre, à la croix, tous les enfants. Alors maintenant, nous pouvons méditer 1 Corinthiens 17 à 2, 16. 1 Corinthiens 17 à 2, 16. Dans 1 Corinthiens 16, 17, Paul commence par dire que sa mission n'a pas été de baptiser, mais de prêcher l'Évangile. Son but est de transmettre la foi par la prédication. Et pour cela, il expose aux Corinthiens ce qu'est la vraie sagesse contre la fausse. Son discours est un exposé organisé comme le font les philosophes. Mais il se distingue des prédicateurs de sagesse de deux façons. Premièrement, sa façon d'exposer la doctrine. Il le fait simplement, sans chercher à attirer l'attention à sa personne, sans se mettre en avant, sans ajouter du sien à la doctrine. Il le fait purement. Et deuxièmement, il prêche un contenu doctrinal qui n'a rien à voir avec la sagesse du monde, qui se caractérise par la recherche de la vaine gloire, de l'amour des richesses, de la bonne chair, de la vie de plaisir. Ainsi, c'est en contradiction avec la sagesse humaine que Paul veut exposer la vraie nature de la sagesse de l'Évangile. Et Paul nous affirme que l'Évangile n'est rien d'autre que l'annonce du Messie Sauveur crucifié. C'est donc une prédication de la croix. La prédication alors doit être dépouillée de tout artifice, de l'éloquence traditionnelle des rhéteurs. Elle doit manifester sa puissance en elle-même, par elle-même, car c'est la sagesse divine qui trouve sa force dans la puissance divine. Et si on s'appuyait sur une sagesse humaine, on réduirait l'efficacité de la sagesse divine. Voilà un comportement pour écouter ceux qui viennent à nous. N'enseigner et ne transmettre que la sagesse divine. En 1 Corinthiens 18, Paul écrit que le langage de la croix sauve ceux qui acceptent la prédication et qui fait apparaître la distinction entre ceux qui se soumettent à l'Évangile et ceux qui ne s'y soumettent pas. On constate deux attitudes qui coexistent. Et saint Paul donne un avertissement grave pour la vie des personnes, pour ceux qui négligent le salut. La croix est un langage rejeté pour ceux qui la refusent et qui estiment que ce langage est folie. Et ils considèrent même la croix comme quelque chose de mesquin et même d'illusoire, produit d'une imagination faible par rapport au discours humaniste de la sagesse. Pour eux, la sagesse de la croix est une ipsie, une sottise. Et les chrétiens sont pour eux des gens méprisables. À la prétendue folie s'oppose l'expérience chrétienne de la force de Dieu, agissant pour ceux qui acceptent le langage de la croix. Car c'est la force divine qui les a arrachés au pouvoir du démon. Ils ont été justifiés, sanctifiés. Paul écrit en 19-20 des Corinthiens, 1-19-20, « Je détruirai la sagesse des sages, l'intelligence des intelligents, je la rejetterai. Où est-il le sage? Où est-il l'homme cultivé ?» La connaissance de la sagesse nécessite le don du Saint-Esprit qui dépose dans le cœur une force sanctifiante. Peut-être alors que ceux qui se perdent n'ont pas voulu ouvrir volontairement leur cœur au Saint-Esprit, puisque mystérieusement le Saint-Esprit est accordé à tous. Au chapitre 3, verset 18, Paul conclura son argument contre la fausse sagesse qui cherche en ce monde pouvoir, richesse, désir de la chair. Il dit que avant le Christ, les sages philosophes devaient éclairer le peuple, lui enseigner le sens vrai de l'existence, la façon de vivre conformément à la conscience ouverte au commandement de Dieu. Car au commencement, Dieu avait ordonné le monde avec mesure, ordre, perfection, de sorte que la raison pouvait percevoir la présence divine par le moyen de ses œuvres. Mais le péché, obscurcissant tout, la sagesse humaine n'a plus été capable de jouer ce rôle révélateur. Et alors Dieu a refusé, à cause du péché, que le salut s'accomplisse par la sagesse humaine qui a trahi sa mission. Et c'est par la folie de la croix, cette autre sagesse, que Dieu a décidé que se réaliserait le salut. C'est pourquoi la nouvelle sagesse dépasse la première pédagogie. Dieu ouvre un autre chemin de révélation qui est conforme à son amour sauveur manifesté par l'incarnation de Christ. Cette nouvelle sagesse respecte toujours la raison, ce qui permettra à la théologie d'exister. Mais la raison deviendra la servante de la foi. Elle ne fera que l'éclairer et elle lui sera soumise. Ce qui est premier est la foi dans le Christ Jésus, notre Sauveur, mort, crucifié, ressuscité d'entre les morts. Les Juifs demandent des signes, comme par le passé, lors de la sortie d'Égypte. Les signes du désert, qui étaient la manne, l'eau du rocher, les théophanies. Quant aux Grecs, auteurs de la sagesse humaine, ils ne croient que par la raison et n'adhèrent qu'à ce qu'ils voient. Ils se moquent donc de toute religion qui ne satisfait pas les discours de la raison. Et ils n'ont pas évité la décadence religieuse et morale. C'est alors que Dieu a organisé une nouvelle économie du salut qui s'accomplit par la croix, chose que répugnent les sages, et aussi par une prédication même d'ignominie et d'impuissance. Et c'est cette proclamation qui sauve, à condition d'en aller jusqu'à en accepter la folie de la prédication, dit Paul. Qu'est-ce que le monde, selon saint Paul? Le monde tel qu'il l'entend, c'est une société qui se constitue en dehors de Dieu. Et saint Jean, de son côté, accentue même cette vision du monde. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la richesse, ne vient pas du Père, mais du monde. Et le monde passe avec ses convoitises. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et saint Jean, en 5:19, dit encore, le monde entier agit au pouvoir du mauvais. Et c'est par la foi que le chrétien résiste au monde et qu'il remporte la victoire sur le monde. Paul dit, nous présentons un Christ crucifié. Il est scandale pour les uns et les autres. Ces derniers font le jeu de Satan, ennemi de Dieu, qui cherche à renverser les desseins de Dieu. Et c'est ainsi que deux mondes sont en présence. Et c'est la croix qui les met en lumière. L'ordre ancien, qui a échoué à trouver la véritable volonté de Dieu et s'est conformé, et l'homme nouveau, qui se révèle par la croix et qui déconcerte sagesse des Grecs et Juifs. On comprend que la prédication de la croix ait pu déconcerter les uns et les autres. Un Dieu anéanti par la puissance des hommes, mené au supplice le plus infamant de la croix. C'est ce Dieu-là que Paul prêche aux Corinthiens. Et il affirme que c'est le vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre. Mais quelle folie que cette prédication! Et pourtant, c'est cette annonce-là qui va donner lieu dans la première Église à tant de miracles, d'effusion de l'esprit, de manifestations charismatiques. Tous ces chrétiens qui reçoivent cet enseignement, qui vivent de ces manifestations, qui sont des interventions de la puissance divine. En fait, comment comprendre que la faiblesse est plus forte que la force? Alors là, nous sommes en présence d'une contradiction ou d'une antinomie, force, faiblesse. La folie de Dieu, plus sage que la sagesse, en opposition à la faiblesse des plus fortes que la force. La toute-puissance divine, infiniment sage, s'est complue à vaincre la sagesse humaine par son contraire. Sauver les hommes orgueilleux par leur prétendue puissance, qui est une impuissance. Est-ce que la question de la faiblesse peut nous retenir et nous permettre d'en discuter? Qui accorde entre nous à ces faiblesses une valeur quelconque? Ne cherchons pas plutôt à tout faire pour remédier à nos faiblesses, à nos handicaps, à nos limites, à nos vieillissements. Pour les musulmans, le christianisme prêche une attitude d'esclave. Le surhomme de Nietzsche ignore la faiblesse. Alors, est-ce que donner du sens à nos faiblesses nous fait perdre la face? Nous fait-elle courber l'échine devant un puissant? Est-ce que par hasard, la question de la faiblesse ne se cacherait pas, dans la question de la faiblesse, ne se cacherait pas une dépréciation de la vie, une mise en question de la recherche du bonheur sur la terre? Est-il légitime de chercher le bonheur en ce monde marqué par la croix? Quelle valeur prend alors l'ascèse? Est-ce que le témoignage des saints ne nous met pas en contradiction avec le désir de nous épanouir en ce monde? Faut-il prendre la croix comme un absolu qui met hors du monde? Comment arriver à concilier croix et vie dans le monde? Voilà tout un ensemble de questions. Ce sont des questions réelles. Quelle valeur accordons-nous à nos faiblesses? La prédication de la croix ne peut se comprendre que dans l'union au Christ crucifié. Cette union ne peut être qu'un effet de la grâce du Saint-Esprit. C'est lui qui semble bien accorder à chacun une certaine mesure d'union au Christ. Alors ne sommes-nous pas en face du mystère de la liberté divine, de donner sa grâce et la mesure de sa grâce comme il l'entend? Saint François a su répondre à la grâce, mais pour faire cette réponse, ne lui est-il pas fallu recevoir d'abord une grâce particulière? On ne peut pas nier que Dieu donne comme il le veut, mais que s'il donne à chacun suffisamment pour faire son salut, on ne peut nier que ses dons sont plus ou moins grands selon les personnes, que la mesure de répondre à son amour est plus ou moins grande selon les personnes, mais que chacun a suffisamment pour faire son salut. Il y a un très grand mystère d'élection, et l'exemple de Marie est la preuve d'une élection unique en vue de l'incarnation. Cette question de la mesure qui est la nôtre, que nous avons à découvrir, à accepter. Nous n'avons peut-être pas la mesure de Sainte Bernadette, la mesure de Saint Jean de la Croix. Nous avons notre mesure à nous. Et la question que nous avons est de dépasser une jalousie qui pourrait s'en prendre à Dieu de n'avoir pas reçu ce que l'autre a reçu. Et pour cela, il faut dépasser l'individu et regarder la totalité, le corps entier. Et saint Paul nous enseigne cette vision de l'ensemble qui situe tous les dons particuliers, tous les charismes en vue de l'harmonie du corps, où chacun y a sa place, tel qu'il est, selon la mesure que Dieu lui a donnée, en vue de l'harmonie du corps entier. Chacun a sa place dans le tout, car il n'y a qu'un seul qui soit le tout, c'est Jésus lui-même. Alors, chaque membre doit assurer, selon sa mesure propre, sa fonction propre pour le bien-être de tout le corps. Et c'est alors que la faiblesse prend son sens. À ce niveau où elle est un moyen d'union au corps du Christ, quand je suis faible, dit Paul, alors je suis fort. C'est-à-dire, quand je suis uni au Christ crucifié, dans cette faiblesse, dans cette crucifixion, je participe à la rédemption pour tous. Ma faiblesse, alors la force de l'amour qui construit le corps entier. Et la volonté du Père est de tout réunir dans le Christ. Et le scandale, c'est que Dieu a choisi des pauvres. C'est un scandale pour les nantis qui règnent sur tout, qui se veulent même maîtres du monde, de Dieu. Et Marie, une fois de plus, est l'exemple même de la volonté de Dieu de se choisir les petits. Luther dira dans le cinquième, quel est le cinquième évangile ? L'évangile de la petitesse. Jésus exulte en ayant la vision de la sagesse du Père qui accueille les petits, qui rejette la sagesse des intelligents et des sages. Luc 10, 21, « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, de l'avoir révélé au tout petit. Paul, en parlant des puissances de son temps, parle des nobles, ceux de la bourgeoisie humaine, la classe des riches et dominante. Ils ont la puissance, la richesse foncière. Ils sont appelés des aristoi en grec et des meliores en latin. À l'opposé, le peuple, lui, qui sert de serviteur aux puissants, ce sont des ouvriers agricoles qui vivent une condition misérable, tout près de la servitude. Ces pauvres-là sont rejetés, méprisés, oubliés. Et voilà bien, ô scandale, que ce sont eux que Dieu a choisis pour confondre les forts, pour les amener à reconnaître leur erreur en constatant que Dieu préfère les pauvres et non les riches. Par la prédication, ces pauvres sont élevés par Dieu au-delà des riches. Et c'est Dieu lui-même qui les a réhabilités dans leur dignité foncière bafouée par la libéralité divine. Ils sont justifiés par Dieu lui-même dans leur dignité d'homme. Alors Paul dira qu'aucune chair ne se vante devant Dieu. Les pauvres, parce que Dieu les a élevés par grâce. Les riches, parce que par les pauvres, Dieu a révélé sa sagesse. La vanité de leur richesse en leur préférant les pauvres. C'est le Christ qui exprime cette sagesse de Dieu incompréhensible au monde. Car c'est en lui qu'est donnée, justifiée, rédemption et sanctification. Alors Paul en a fait une application directe de sa prédication en sa personne. Lui, il n'a cherché à être qu'un serviteur de l'Évangile, sans recourir aux artifices de la rhétorique. Il n'a voulu transmettre que le témoignage de Dieu le Père, qui a voulu sauver le monde en son Fils, Jésus, le Christ, et rien d'autre. C'est pourquoi il s'agit bien de la vraie sagesse. La prédication de Paul est réellement une prédication de la vraie sagesse, tout autre que celle du monde. Et il écrit la sagesse de Dieu, c'est une sagesse mystérieuse, cachée avant les siècles. Dans sa prescience, Dieu connaissait l'histoire du monde, de son début à la fin. Il connaissait la chute d'Adam. Il avait prévu un plan de salut par le Christ. Personne ne pouvait supposer cette prescience divine. Et Paul dira qu'elle est maintenant révélée par l'Église. Aucune puissance, même angélique, n'avait pu percevoir ce secret caché dès l'origine, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas eu l'audace de crucifier le Fils, envoyé pour réaliser le salut qui devait se faire par la croix. Alors Paul développe une catéchèse de vie spirituelle dans le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit et lui seul que notre esprit humain est fécondé et illuminé, de sorte que notre intelligence renouvelée peut alors percevoir le mystère de l'amour divin, sauveur et divinisateur se réalisant par le mystère de la croix, qui est une œuvre d'amour du Fils et qui donne le pardon du Père. Sans le Saint-Esprit, l'esprit humain reste enténébré depuis le péché d'origine et il ne peut pas accéder à la connaissance des réalités supérieures. Saint Séraphin de Sarov dira justement « La vie chrétienne est l'acquisition du Saint-Esprit. » Alors la véritable prédication développe une puissance spirituelle dans l'être des personnes quand le prédicateur parle dans l'esprit et quand ceux qui la reçoivent l'accueillent d'un cœur pur. C'est notre condition à chacun de nous que quand nous sommes en communion, en relation avec d'autres personnes, de croire que la prédication que nous apportons en tant que fils bien-aimé du Père dans le Saint-Esprit a une puissance qui transforme la personne d'elle qui écoute, avec laquelle nous sommes en relation. Car le Saint-Esprit fait connaître les dons de Dieu en termes spirituels et le prédicateur est d'enseigner ces réalités spirituelles par un discours qui n'est pas celui de la sagesse du monde, mais par la vraie sagesse du Christ Jésus, mort, crucifié et ressuscité, et en lui seul, lui seul. En conclusion, la préoccupation des lettres de Paul est de cerner le plus possible les diverses facettes du mystère infiniment riche du Christ, en utilisant des matériaux empruntés à la tradition sapientielle. Ces matériaux ont servi à étayer le double aspect du Christ Seigneur, qui est Fils de Dieu, non séparé de ses frères et du monde. Et c'est parce qu'il est le Fils de Dieu qu'il peut être plus présent encore aux hommes et gouverner le monde. L'expression « sagesse de Dieu » recouvre la totalité du projet salvifique de Dieu sans désigner une sagesse personnifiée. Néanmoins, la sagesse reste une réalité qui aide à percevoir le projet de création et de rédemption de Dieu dans le Christ Jésus. Elle n'est pas une doublure, elle n'est pas l'égale de Dieu. Elle est divine sans être Dieu. Elle est don de Dieu. On ne peut pas l'identifier au Christ, même si elle est dit quelque chose de ce mystère. Elle restera toujours une réalité mystérieuse. Elle est la sagesse avec laquelle Dieu a créé le monde et l'a racheté par la croix de son Fils. Une sagesse que le monde ne peut pas comprendre, mais qui sauve celui qui en fait son guide. Saint François fut saisi dès l'aube de sa conversion par le Christ crucifié, qui le prépara à la crucifixion mystique de l'Alverne. Il eut constamment devant les yeux Jésus, homme de douleur. Tous les historiens sont impuissants à traduire les expériences intérieures du saint. Chelenot écrit « Dans sa vie publique, comme dans sa vie privée, l'homme de Dieu se porta tout entier vers la croix du Seigneur. Et à partir de ce moment où il devint le chevalier du Christ crucifié, les différents mystères de la croix brillèrent en lui. » À la première manifestation du crucifié, son cœur se liquéfia. Il en reçut une impression qu'il ne s'effaça jamais. À Saint-Damien, il entendit la voix du crucifié. À la portion culte, peu après, il partit dans le monde pour pleurer la passion du Seigneur. Il enseigna à ses disciples le livre de la croix du Christ, la lettre Tau. Il en fit son sceau officiel. La passion fut le thème de ses méditations de jour et de nuit. Il médita la sainte passion du Christ dans les sanglots et les larmes, jour après jour, écrit Thomas de Chelano. Parce qu'il portait la croix du Christ profondément enracinée dans son cœur, sa vie se transforma totalement. Son désir le plus ardent était de se dissoudre dans le Christ, de s'anéantir dans les plaies du Sauveur. Prêt à partager les souffrances du Christ, il en reçut les stigmates. Ses élévations contemplatives, ses chants lyriques s'achevèrent d'ordinaire dans une jubilation intérieure dans le Christ en croix. Pour satisfaire sa piété, il rédigea un office de la Passion, qu'il récita, qu'il fit adopter par Sainte-Claire. À la fin de sa vie, il ne voulut connaître que Jésus-Christ crucifié et rien d'autre. Et il nous a laissé cette prière. « Mon Dieu, fais que je meure par amour de ton amour. Toi qui pour l'amour de mon si pauvre amour, a daigné mourir de si bel amour.